Eh bien, nous avons donc examiné rapidement, bien sûr, les fois précédentes, l'état primitif de l'homme, la loi de nature, sur laquelle nous ne savons pas grand-chose. La loi ancienne, là nous en savons un peu plus, et il nous faut maintenant passer, bien sûr, à... Et ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est la loi nouvelle, cette loi dont nous sommes les sujets. La loi sous laquelle nous vivons aujourd'hui, que l'on appelle la loi nouvelle, par rapport à la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament. Donc la loi nouvelle, qui est la loi dont, qui s'applique à nous aujourd'hui dans l'Église. Cette loi nouvelle qui a été inaugurée, qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, et il est un homme dont on peut parler très rapidement, parce que la dernière fois, on m'a posé quelques questions à son sujet, c'était un petit peu mystérieux peut-être. C'est Saint Jean-Baptiste, le précurseur qui achève l'Ancien Testament et qui inaugure d'une certaine façon le Nouveau Testament, puisque c'est lui qui annonce le précurseur, l'agneau de Dieu. Donc il n'est pas encore, c'est pas lui qui inaugure le Nouveau Testament, mais c'est lui qui fait le pont entre les deux. Et la question qui a été posée, c'était la question du baptême de Saint Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que c'était ce baptême? Est-ce que c'était un véritable baptême ou est-ce que ça n'était pas un véritable baptême? Eh bien, ça n'était pas un véritable baptême. On l'appelle baptême quand même parce qu'il a un statut un petit peu particulier. Ce qui tenait lieu de baptême sous l'ancienne loi, c'était la circoncision. Voilà, ce qui équivaut au baptême. Le baptême de Saint Jean, ce qu'on appelle un baptême de pénitence, quel était son but? Saint Thomas d'Aquin nous en parle, bien sûr, il nous parle de tout, Saint Thomas d'Aquin. Toutes les réponses sont chez lui, ou à peu près. Il nous dit qu'il y avait quatre raisons, quatre motifs à ce baptême de Jean. Parce qu'il fallait, d'abord, eh bien, quelqu'un pour baptiser le Christ. Le Christ voulait recevoir le baptême de manière à inaugurer justement le baptême chrétien, et il fallait donc que le Christ reçût le baptême pour consacrer le baptême, et il fallait donc quelqu'un, eh bien, pour lui donner le baptême. C'était un des rôles de Saint Jean-Baptiste et de ce baptême. Il fallait aussi, ensuite également manifester notre Seigneur, l'agneau de Dieu, aux foules qui venaient précisément. Qui venait se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste, il fallait le manifester dans Israël, donc deuxième raison de ce baptême de Saint Jean-Baptiste, par la prédication, l'enseignement et la désignation qu'il ferait de l'agneau de Dieu. Il fallait préluder encore, nous dit Saint Thomas, au baptême chrétien en y préparant le peuple. Vous voyez, son rôle était de préparer le peuple à recevoir le baptême chrétien et exhorter, enfin, dit-il, les hommes à la pénitence. Une sorte de préparation au baptême par l'enseignement, la prédication, par la pénitence, l'appel à la pénitence, et puis par cette annonce de notre Seigneur, la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici un des rôles donc de Saint Jean-Baptiste et pourquoi il baptisait sur les bords du Jourdain. Et ce baptême ne conférait pas la grâce. C'était simple purification. Purification du corps, pour appeler les hommes à la pénitence et se disposer à recevoir la grâce qui allait être inaugurée, donnée par Jésus-Christ. Voilà quel était le rôle de ce baptême de Saint Jean-Baptiste, mais ce baptême n'était pas donc un véritable, n'était pas un sacrement, en tout cas il ne conférait pas la grâce. Donc cette loi nouvelle, eh bien elle nous est inaugurée, elle nous est donnée par Jésus-Christ. Saint Jean nous le dit dans son évangile, premier chapitre, c'est à la fin de ce qu'on appelle le prologue, chapitre 1, verset 17. La loi nous a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. Et pour bien distinguer la loi, alors quand on parle de la loi habituellement, quand Saint Paul parle de la loi, par exemple dans ses épîtres, eh bien, il fait toujours référence à la loi ancienne, bien sûr. C'était la loi que connaissaient les Juifs. Il parlait à des Juifs, et les Juifs ne connaissaient pas d'autre loi que la loi ancienne. Donc cette loi ancienne avait été donnée par Moïse, et puis voici justement eh bien, cette nouvelle loi, entre guillemets, si vous voulez, bon, qui est la grâce, et qui est la vérité, et qui, elle, est faite par Jésus-Christ. Et cette question de la loi, bon, nous n'avons pas expliqué, nous n'avons pas considéré ce qu'était la loi, parce que c'était un petit peu difficile peut-être, ça nous entraînerait trop loin. Et le problème de la loi, vous voyez, savoir un petit peu, comprendre un peu sous quelle loi nous vivons, c'est fondamental pour nous, de manière à comprendre un peu quelle est notre véritable morale. Le problème de la loi, c'est le problème de notre conduite, c'est le problème de notre agir, de nos mœurs. Bon, ce qu'on appelle la morale, eh bien, c'est la façon habituelle de se comporter, comment est-ce que nous devons vivre. Et c'est fondamental pour nous, comment devons-nous vivre? Il est beau de croire, il est important de croire, bien sûr, c'est premier. Il faut d'abord croire, savoir un petit peu, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite vivre, voilà, tout au long de notre vie. Et nous avons besoin d'une règle pour notre vie, savoir un petit peu bien ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. C'est là le rôle de la loi. Alors la loi peut être extérieure, comme elle l'était sous l'Ancien Testament, et elle peut être plus intérieure, comme elle l'est sous le Nouveau Testament, hein. Et c'est très très important de connaître justement le régime de la loi sous laquelle nous vivons. Tout le problème de la morale, le problème de la loi, se ramène en gros, dirons, à la question de notre fin. Pourquoi sommes-nous faits? Quel est notre but sur la terre? Ouais. Et quels sont donc ensuite, c'est très simple tout cela, et quels sont donc les moyens à utiliser pour atteindre cette fin? Fondamental cela, c'est si vous n'avez pas répondu à cette question, vous perdez votre temps. Et précisément, le bon Dieu qui est bon, il nous a donné toutes les réponses à ces questions. Ne vous cassez pas la tête, votre fin, c'est moi, votre béatitude, votre bonheur, c'est moi, c'est la vie éternelle, voilà, c'est vivre dans ma propre béatitude. Et quels sont les moyens à utiliser pour cela? Eh bien, c'est la loi, voilà, la loi. Voilà les moyens qu'il faut utiliser pour parvenir à cette vie éternelle, pour parvenir au bonheur, parvenir à la béatitude. Voilà. Et donc, il est très très important pour nous déjà de comprendre un peu, eh bien, quelle est notre fin, pourquoi nous sommes faits. Là, je dirais, c'est tout l'Évangile qui nous le dit. Nous le savons, bien sûr, mais il est important de le considérer, de le méditer souvent. Pourquoi sommes-nous faits? Nous sommes faits pour la vision de Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu face à face. C'est inimaginable cela. Dieu l'infini, Dieu le tout-puissant, Dieu trinitaire, Dieu dans sa gloire qui n'a pas besoin de nous. Eh bien, Dieu veut nous rassasier de sa vision. Voilà. Il veut nous communiquer sa propre béatitude. Voilà. Sans que nous n'ayons aucun droit. Voilà. Simplement, comme ça, pour mettre sa joie à nous faire plaisir, à nous rendre heureux, c'est tout. C'est extraordinaire cela. Et nous n'avons pas d'autre fin que celle-ci. Notre fin, c'est la vie éternelle. C'est connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu, voir Dieu, et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voilà notre fin, voir Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire ici-bas. Il n'y a rien à faire, ne cherchez pas ici-bas à voir Dieu, vous ne le verrez jamais ici-bas. On peut le connaître, on peut commencer un petit peu à comprendre ce qu'il est, etc. C'est vrai, bien sûr, mais le voir, non. Cela est impossible. Et nous ne verrons jamais Dieu avec les yeux de notre corps, jamais. Voilà. Nous le verrons eh bien, dans l'éternité, avec notre âme, vision intellectuelle, bien sûr, connaissance intellectuelle, et avec notre corps, lorsque nous serons ressuscités. Et là, ce sera une vision un petit peu particulière, hein, nos corps glorifiés. Et oui, verrons Dieu. C'est extraordinaire, ça. Et précisément, il est important de bien comprendre cela, parce que c'est cela qui va déterminer ensuite les moyens à employer. Comment est-ce que je vais vivre? Ouais. Si ma fin, elle est spirituelle, si ma fin est surnaturelle, si ma fin est en Dieu, eh bien, est-ce que je vais continuer à vivre au ras des pâquerettes, si je peux dire, là, au ras du sol, à m'embourber un petit peu dans tous les plaisirs de la terre? Est-ce que tout ça est de nature à me conduire à cette vision de Dieu ou pas? Ben, voilà. C'est simple, vous savez. Je ne dis pas que c'est facile, hein, ça. Mais c'est simple à comprendre, en tout cas. Après, à vivre, ça, c'est un peu plus difficile. Hein. Et tout dépend, justement, de la fin que nous assignons. Ouais. Bon, nous sommes tous faits pour Dieu. Il n'y a rien à faire, ça. Tous les hommes sont créés pour voir Dieu. Tous, quel qu'il soit. Le pire des francs-maçons a été créé par Dieu pour lui, pour le voir lui. Ça, c'est sûr, ça. C'est dans notre nature, à tous. Et c'est ce qui fera, d'ailleurs, hein. C'est ce qui fait, hélas, le malheur des damnés, ça. Le malheur des damnés. dont toute la nature qui a été créée par Dieu aspire à voir Dieu et ne le verra jamais. Toute leur nature est en appétit, si vous voulez, de Dieu, à voir Dieu comme ça. Toute leur nature aspire vers Dieu, et parce qu'ils n'ont pas voulu, eh bien, ils ne le verront jamais. C'est terrible, cette sorte de déchirement intérieur entre cette aspiration naturelle et ce refus de leur volonté. C'est épouvantable. Et c'est peut-être, c'est sans doute la pire des souffrances des damnés, ça. Toutes les souffrances des sens, bon, les peines sensibles sont déjà terribles, mais c'est rien, si l'on peut dire, à côté de cette souffrance intérieure, d'une nature comme ça, écartelée entre le désir de voir Dieu et le refus de la volonté, eh bien, de voir Dieu, de vivre selon Dieu. Et donc, il est important, de bien fixer notre fin, parce que, bon, si nous sommes tous faits pour Dieu, il faut ensuite, accepter cette fin, accepter, effectivement, de mettre toute notre fin, d'orienter toute notre vie vers Dieu, parce que malheureusement, nous pouvons, bien que nous soyons faits pour Dieu, choisir une autre forme de bonheur. Il y en a qui vont choisir le plaisir, il y en a qui vont choisir les richesses, il y en a qui vont choisir tout ce que vous voudrez. Ils vont mettre leur fin ailleurs qu'en Dieu. Et ils vont tout ordonner à la conquête de ce bonheur, qui est un certain bonheur, c'est vrai. Bonheur humain, bonheur naturel, mais qui n'est pas le vrai bonheur pour lequel l'homme est fait. Et là, leur morale, va être une autre morale que la nôtre, que la morale chrétienne, c'est sûr. Vous aurez des morales du devoir, comme ça, c'est tout simplement morale de gendarme, un petit peu. Bon, c'est pas tout à fait l'esprit du bon Dieu, quand même. Morale de la crainte, vous aurez des morales du plaisir, vous aurez des morales de tout ce que vous voudrez. Et nous, notre morale, la morale chrétienne, c'est une morale de la vertu, en fait. C'est la morale de la sainteté. La morale chrétienne, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est la conquête de la sainteté. Et comment se conquiert la sainteté? Par la vertu, par la pratique de la vertu. C'est ça. Et c'est magnifique, cela. Considérer sa vie un petit peu sous cet aspect-là. Ma fin, c'est Dieu. Je suis fait pour voir Dieu. Et comment atteindre cette fin? Comment voir Dieu un jour? En pratiquant ici-bas, chaque jour de ma vie, la vertu. Vertu théologale, vertu morale, etc. Mettre tout ce qu'il y a de bon en moi, au service de Dieu, au service du bien. C'est magnifique, cela. C'est infiniment plus beau, plus léger, plus enthousiasmant, même que de se contenter d'éviter le péché. C'est bien d'éviter le péché. C'est beau. C'est le béaba. C'est le premier stade de la sainteté. C'est sûr, il ne faut pas pécher. C'est défendu, le péché. C'est vrai. Mais si on se limite à ça, on risque de ne pas aller très, très loin. Car il s'agit de conquérir Dieu. Il s'agit de partir un peu à la conquête de l'éternité. Et comment cela se fait-il? Pas seulement en évitant le péché. Il faut encore pratiquer la vertu. Il faut faire le bien. Se sanctifier comme ça, jour après jour. Et puis si jour après jour comme ça, on essaie de s'embellir intérieurement en étant davantage à la disposition du bon Dieu, en faisant davantage la volonté du bon Dieu, en faisant chaque jour, un petit peu, toujours, autant qu'on peut bien sûr, ce qui plaît à Dieu, il va arriver un jour où on va basculer de l'autre côté, presque sans s'en rendre compte. Et puis on arrivera chez le bon Dieu, comme ça, c'est pas mal ici, tiens. Voilà. Parce qu'on a vécu toute notre vie comme ça, en marche vers ça, en conformité avec l'éternité. Voilà, on fait le bien, et puis pouf, un jour, on laisse le corps en bas, et puis l'âme, elle arrive en haut, et puis voilà. C'est la Sainte Trinité. C'est extraordinaire. Voilà la vie chrétienne, voilà la morale chrétienne. C'est pas autre chose, ça, mais... Oui, c'est important, cela, à comprendre, je crois. Malheureusement, même, je pense, dans notre Sainte Église, je crains qu'il n'y ait pas mal de chrétiens, de catholiques, qui aient une conception un peu faussée, un peu étriquée de la morale chrétienne. Il faut éviter le péché, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est permis, c'est défendu. C'est vrai, tout cela, ça existe. De toute façon, je ne veux pas dire que tout cela soit faux. Mais c'est pas l'essentiel, cela. Ça, c'est la partie un peu extérieure des choses. Notre vraie morale, elle est au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme, par la présence de Dieu. Il y a une chose qui est extraordinaire, et nous en reparlerons peut-être un petit peu une fois, et qui, je crois, est déterminant pour la qualité d'une vie chrétienne, c'est cette foi dans la présence en nous de la Sainte Trinité. C'est extraordinaire, ça. Il faut être le bon Dieu pour penser à des choses pareilles. Moi, pauvre type que je suis, je suis minable, misérable. Vous aussi. Enfin, tous, voilà. Nous sommes tous des misérables. Qu'est-ce que nous sommes, hein? Franchement, hein? Qu'à nous regarder, c'est pas bien brillant. Hein? Bon, ben voilà que le bon Dieu, ben malgré tout, je sais pas ce qu'il lui a pris un petit peu, qu'est-ce qu'il a dans la tête, mais enfin, si, je le sais un peu, mais enfin. Mais voilà, il a choisi de faire en moi sa demeure. Et c'est une réalité, ça. Attention, c'est pas une façon de parler, ça. C'est pas une sorte de formule de littérature, de. Non, absolument pas. C'est une réalité. Aussi longtemps que je suis en état de grâce, bien sûr, c'est la moindre des choses, eh bien, Dieu fait en moi sa demeure. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont présents en moi réellement, substantiellement. Ouais, substantiellement. Le paradis est en moi. L'éternité est en moi. C'est invraisemblable, ça. On a du mal à le réaliser. C'est pas possible. Tout en moi, ben oui, en moi. Je sais pas trop, mais c'est en moi, en tout cas. Bon, c'est sûr. L'éternité, le paradis, le ciel, Dieu est en moi. Vous savez, hein? Alors là, moi, je peux... Revenez souvent à cette pensée, vous savez. Et votre morale sera toute illuminée. Et votre vie sera toute illuminée. Toute illuminée. Mais si vous avez vraiment conscience de ce sentiment quotidien de la présence de la Sainte Trinité dans votre âme, il vous suffira de temps en temps de revenir un peu à cela et de vous dire, mais attention, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que le bon Dieu qui est présent en moi, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que ça lui plaît? Puisqu'il est en moi, il est témoin, etc. Même à la limite, il participe un petit peu à ce que je fais. Ouais. Bon, est-ce que ça lui plaît? Dieu est présent en moi. Ouais. Quand je regarde tel spectacle, est-ce que la Sainte Trinité, eh bien, qui est en moi, est contente de regarder ce spectacle? Etc. Ouais. Bon. La vie chrétienne, c'est ça. Hein. C'est une vie d'amour, hein. C'est une histoire d'amour. Hein. C'est une vie d'amitié entre la Sainte Trinité et mon âme, c'est tout. Et je fais tout au long de ma vie, eh bien, en sorte de ne jamais froisser la Sainte Trinité qui habite en moi. Voilà. Jamais lui déplaire, jamais la déranger. Ne pas lui donner l'envie de s'en aller. Vous vous rendez compte, c'est la plus grande catastrophe qui puisse nous arriver. C'est pas la fin du monde, c'est pas les Arabes ou les communistes, c'est pas ça la plus grande catastrophe. Eh bien, c'est que la Sainte Trinité quitte mon âme. Voilà. Parce qu'elle en a marre. Non, ça va pas. Je lui fais faire des tas de choses qui ne lui plaisent pas. Un jour, elle en a assez, elle s'en va. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus grave, ça? Il n'y a rien de plus grave que ça. Ça, c'est le péché mortel. Ça. Mais le péché mortel, c'est ça. Le drame du péché mortel, c'est ça. La Sainte Trinité s'en va. Et puis après, ben, qu'est-ce que vous voulez faire tout seul? Voilà. Voilà, on est seul avec son péché. Il n'y a plus rien à faire. Bon, heureusement, on peut aller retrouver le bon Dieu, quand même le retrouver dans le sacrement de la pénitence. Mais il vaut mieux quand même le garder. Je pense que c'est voilà, plus agréable au bon Dieu, certainement, de ne jamais avoir à quitter notre âme. Voilà la morale chrétienne. Vous savez, quand on a dit ça, je crois qu'on a déjà dit les trois quarts de ce qu'il y avait à dire. Et quand on a compris ça. Et toute notre morale, nous, eh bien, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. C'est lui, hein, notre sainteté, c'est lui. Saint Paul a des passages qui sont magnifiques. Justement, pour nous montrer un peu, Saint Paul ne cesse un peu de... Ses épîtres sont très belles, hein, elles sont difficiles. Je veux bien vous l'accorder, ça. Elles sont parfois un petit peu ardues à comprendre, mais très belles. Vous avez généralement, dans les épîtres de Saint Paul, une partie dogmatique, d'abord, où il enseigne la vérité, puis ensuite une partie plus morale, où là, il tire des conséquences, il donne des conclusions, voilà, bien, en raison de ce que nous avons considéré, eh bien, quelques conclusions pratiques quant à la façon de vivre, d'agir, etc. Et dans toutes ces épîtres, mais on peut lire peut-être quelques passages, oui, et chez lui, toujours, 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 son leitmotiv, si l'on peut dire, eh bien, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Notre morale, c'est Jésus-Christ. Il y aurait toute la première épître aux Corinthiens, les trois premiers chapitres, par exemple, vous voyez, que nous pourrions lire. Ça, je vous laisserai faire. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Attendez, quelques passages un peu plus caractéristiques. Voici. Vous voyez, Saint Paul qui est un peu confronté, justement, à deux sortes de morale. Et Saint Paul est confronté à la morale juive, morale de la loi. Et puis également, puisqu'il va prêcher à Athènes, etc., la morale grecque. Ouais. Donc il se trouve face à la justice juive et puis à la sagesse grec. Oui. Les Grecs, c'est plutôt une morale un peu intellectuelle, la connaissance, la sagesse. Alors que les Juifs, eh bien, c'est la loi. Voilà, faut obéir. Gardez-vous, obéissons à la loi. Eh bien, saint Paul arrive et leur dit non, non, non. Tout cela n'est pas faux, bien sûr. Il y a une part de sagesse, il y a une part de justice, mais il y a beaucoup mieux que cela. Voici ce qu'il dit aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, 1er chapitre, verset 20. Il faudrait tout aller presque. Disons 22 surtout. Les Juifs demandent des miracles et les gentils cherchent la sagesse. Voilà, oui, deux morales auxquelles il est affronté. Et nous, eh bien, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les gentils, mais qui est la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou gentils. Car ce qui paraît folie en Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui paraît faiblesse en Dieu est plus fort que les hommes. Voilà notre morale. Et pas une morale, je dirais, de minable, au contraire, hein, parce que pour accepter d'être faible aux yeux des hommes, eh bien, il faut être fort. Il faut être très fort, hein, pour accepter d'être ridiculisé, moqué, et puis de ne pas bouger, continuer à vivre, marcher son petit chemin, mais il faut être très fort. Hein. Ce n'est pas une morale de faiblesse, hein, non, certainement pas. Mais toute notre morale, eh bien, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. L'Épître aux Romains également, des très belles, des très beaux passages. Chapitre 3, par exemple, les versets 21 et suivants. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée. Et sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, étant confirmée par le témoignage de la loi et des prophètes. Et sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, confirmée par le témoignage de la loi et des prophètes. C'était le rôle de la loi et des prophètes, eh bien, de préparer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, eh bien, ce que nous dit Jésus-Christ est confirmé par la loi et par les prophètes. Il a tout accompli, tout s'est réalisé en lui. Et cette justice que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ est pour tous ceux qui croient en lui. Car il n'y a point de distinction, parce que tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a établi pour être la victime de propitiation, par la foi qu'on aurait en son sang, afin de manifester la justice qu'il donne lui-même, etc. La foi en Jésus-Christ. Voilà. Alors la foi, bien sûr, vivant par la charité, je vous renvoie là-dessus à l'épître d'aujourd'hui, c'est un très beau chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens. Ouais. Voilà notre morale, la foi en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ crucifié, et en Jésus-Christ ressuscité. Voilà la morale chrétienne. Ouais. C'est Jésus-Christ qui est devenu source de toute justice, sagesse de Dieu, c'est lui le fondement de l'édifice nouveau, édifice de la morale, la morale, vertu nouvelle. Quelle est la vertu nouvelle? Eh bien, c'est la foi en Jésus-Christ. Le juste vit de la foi. L'Ancien Testament le disait déjà, et saint Paul le rappelle. Mais la sagesse n'est pas ignorée, il ne s'agit pas de devenir stupide, de ne plus rien apprendre. La justice n'est pas abolie non plus, mais tout cela trouve une source nouvelle dans la foi en Jésus-Christ. Et ne nous faisons pas d'illusions d'ailleurs, sous l'Ancien Testament, qu'est-ce qui sauvait, qu'est-ce qui justifiait les justes sous l'Ancien Testament? C'était la foi en Jésus-Christ. Ce n'était pas la loi en tant que telle, mais c'était la foi en Jésus-Christ qu'elle impliquait, qu'elle contenait implicitement. Ouais. Et les anciens, les justes de l'Ancien Testament ont été sauvés parce qu'ils avaient cette foi implicite en Jésus-Christ, qu'annonçait la loi ancienne, que contenait déjà en germe la loi ancienne. Ouais. Et leur obéissance à la loi n'était pas une obéissance simplement matérielle, ouais, extérieure. C'est une obéissance plus intérieure, plus profonde. Ouais. Et puis une adhésion déjà, peut-être sans le connaître de façon explicite, à Jésus-Christ, dans la personne eh bien, du Rédempteur promis par Dieu. Voilà, tout simplement. Ils y croyaient, ils l'attendaient, ils l'espéraient. Et c'est cette foi qui les justifiait. Alors, où se trouve notre morale chrétienne, cette loi nouvelle? Car c'est bien beau de dire tout cela, c'est bien. Ça ne suffit peut-être pas tout à fait quand même. Il faut savoir un peu quand même ce que contient cette loi nouvelle. Alors où trouvons-nous dans l'Évangile, de façon plus particulière, notre morale chrétienne? Eh bien, c'est dans essentiellement l'Évangile selon saint Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, trois chapitres qu'il faudrait presque que nous sachions par cœur, presque. Ou du moins qu'il serait bon de relire et de méditer sans cesse, c'est le sermon sur la montagne. Voilà la morale chrétienne, le sermon sur la montagne. C'est un passage qui est magnifique, magnifique. Trois chapitres, qu'est-ce que c'est, trois petits chapitres, ça, oui. C'est vrai, ce sermon sur la montagne, il faut le lire sans cesse. Tout est contenu là-dedans. Oui, nous verrons tout à l'heure avec saint Thomas un petit peu à l'analyser peut-être. C'est quelque chose qui a toujours fait, je dirais, les délices de tous les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, les théologiens, car toute notre morale est contenue en lui. Vous le connaissez, je pense, un petit peu, ce sermon sur la montagne, qui est inauguré par un des passages peut-être les plus émouvants. On a le droit d'être ému de temps en temps, quand même. Faut pas faire du sentiment, bien sûr, mais un petit peu d'émotion, c'est permis, quand même. C'est un des passages les plus émouvants de l'Évangile. C'est les béatitudes. Les béatitudes. C'est extraordinaire, ça. Ça est. Il vous arrive peut-être parfois, une fois ou l'autre, d'être un peu... d'avoir le cafard, le vague à l'âme, découragé, désespéré, il y en a marre, c'est pas possible, jamais je vais y arriver, tout ça, et tous les pépins, les catastrophes, tout. Eh bien, un conseil, pleurez tant que vous voulez, c'est pas défendu, ça, bon, pas trop quand même, enfin. Mais au milieu de vos larmes, eh bien, allez lire un peu les béatitudes, tout simplement. Et puis arrêtez-vous là, un petit peu, bienheureux vous qui pleurez. Ah, tiens, bienheureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. Pas mal ça, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que vous avez le droit de pleurer. Bon, comme on dit, je peux y aller, voilà, prudemment. Mais ça veut dire également que tout cela n'est pas un obstacle au bonheur, dites. Oui, ces larmes et ces souffrances que j'ai à connaître ici-bas ne sont pas un obstacle au bonheur. C'est extraordinaire cela. Alors bien sûr, le bonheur n'est peut-être pas pour tout de suite, il est peut-être pour un peu plus tard, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux, entre les larmes et les souffrances que j'ai à connaître ici-bas, et puis le bonheur que j'aurai peut-être à connaître plus tard. Oui. C'est extraordinaire, ces béatitudes. Oui. Si vous voulez vraiment vous remettre l'âme à l'envers, oui, quand elle s'est mise à l'endroit, pardon, excusez-moi, quand elle s'est mise un petit peu à l'envers, eh bien, allez lire les béatitudes. C'est radical. Moi, je ne connais pas de meilleurs remèdes. Oui. Ce n'est pas des belles théories, ce n'est pas des beaux discours sur ceci et cela. Non, allez lire les béatitudes. Tu sais, c'est la parole de Jésus-Christ quand même. Hein. Il était le seul peut-être. Il est peut-être le seul homme à pouvoir nous dire cela. Bienheureux vous qui pleurez, bienheureux vous qui souffrez persécution, bienheureux, réjouissez-vous car votre récompense est grande dans le ciel. Il est le seul à pouvoir nous dire ça parce qu'il est le seul à les avoir vécues intégralement, ces béatitudes. Hein. Parce que lui, il a souffert. Il sait ce que c'est d'avoir souffert. Il sait ce que c'est de pleurer et il peut nous dire cela. Eh bien que tout cela, au contraire, peut être un moyen de nous conduire au bonheur. Alors, eh bien, écoutons-le, tout simplement. Oui. Voilà ces béatitudes, dont certaines, nous en parlerons peut-être un petit peu tout à l'heure si on a du temps, dont certaines, et c'est très beau, sont au présent. Ah, c'est formidable, ça, c'est peut-être les plus belles, celles-là. Hein. Il y en a qui sont pour plus tard, hein. Bienheureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. Bon, ça viendra un peu plus tard. Et puis, il y en a qui sont au présent, il y en a qui sont pour tout de suite. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux vous appartient. Ça, c'est au présent, ça. Tout de suite, maintenant. Si je suis pauvre en esprit, eh bien, je suis propriétaire, je suis riche, plutôt, du royaume de Dieu. Et bien alors, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour me dépouiller, justement, voilà, pour acquérir la plus grande richesse qui soit? Alors, il peut arriver, parfois, que ce soit la vie qui me dépouille, que ce soit les hommes qui me dépouillent. Eh bien, voilà, merci mon Dieu. Il me reste en tout cas la plus grande richesse, celle que les hommes ne peuvent pas me retirer, le royaume de Dieu. Voilà, je le possède celui-là. Et personne ne peut me le retirer, celui-là, personne. C'est extraordinaire ça, que ça voulait de plus. C'est déjà l'éternité ça, c'est le paradis déjà. Oui, donc ce sermon sur la montagne qui commence par les béatitudes, et puis ensuite qui se poursuit par toute une série de conseils, de préceptes, etc., et qui a son point culminant, dans une prière, la prière. Ouais. Tout d'un coup, là, pouf, au sommet du sermon sur la montagne, eh bien, notre Seigneur nous enseigne, nous lègue, nous donne la prière, Lorsque vous prierez, vous direz « Notre Père qui est aux cieux ». Et vous connaissez la suite, je pense. Voilà la morale chrétienne. « Notre Père qui est aux cieux ». L'Évangile nous annonce cette grande nouvelle révolutionnaire pour les Juifs. Les Juifs n'admettent pas ça. Eh bien, c'est la paternité de Dieu, à savoir que Dieu est notre Père. Les Juifs, ça, pour eux, c'est inconcevable. Dieu, c'est le maître, c'est le roi, c'est le souverain qui commande, qui ordonne, qui juge. Mais un père, donc avec tout ce que c'est, tout ce qu'il y a dans le cœur d'un père, de bonté, de bienveillance, vous voyez, et puis également de puissance, vous voyez, pour fournir à ses enfants ce dont ils ont besoin. Ah, pour eux, ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et pour nous, c'est au contraire, c'est tout ce qui fait notre bonheur. Hein. Nous sommes des enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà notre morale. Et notre morale, eh bien, ça va consister à vivre toute notre vie, eh bien, comme des enfants de Dieu. Voilà. À essayer de vivre sur la terre en étant, autant que cela nous est possible, digne de notre Père. Hein. Que notre Père n'ait pas fait tout ce qu'il a fait pour rien, quand même. Vivre comme de bons enfants. Comme vos enfants, certainement, qui sont très fiers de leurs parents, bien essayer de faire plaisir à leurs parents, à papa, maman, etc. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Notre morale, c'est une morale d'enfant. Voilà, on essaie de faire plaisir à notre papa. Il n'est pas défendu, dans la prière intérieure, hein, pas en public peut-être, mais de dire papa au bon Dieu. Et ça facilite beaucoup les choses. Hein. On va sur le bon Dieu, il est loin, là-bas, attention, majestueux, perdu dans les nuages. Mais non, il n'est pas perdu dans les nuages, le bon Dieu, il est là. Alors, simplifions un peu les choses. Facilitons un petit peu notre vie religieuse, notre vie intérieure, et puis n'hésitons pas, même si ça peut nous aider, appeler le bon Dieu papa, et appeler la Sainte Vierge maman. Alors, tout le monde plus facile, vous savez. Voilà, faire des grands discours, ça ne les intéresse pas du tout. Pas du tout. Ce qui intéresse le bon Dieu, ce qui intéresse la Sainte Vierge, c'est notre cœur. Voilà, pour ça, il n'y a pas besoin de faire des grands discours et des grandes théories pour ça. Ils en savent beaucoup plus que nous, sur ce rapport-là. Vous voyez, cette prière du Notre Père, et puis ensuite encore, donc d'autres préceptes. Ouais. Voilà toute la morale chrétienne, voilà la loi nouvelle. Elle est là, notre loi. Si vous voulez savoir quoi faire, eh bien, allez lire chapitre 5, 6, 7 de Saint Matthieu. Voilà. Le code de notre vie chrétienne, le code de la route du chrétien, eh bien, il est là, il n'est pas ailleurs. Ouais. Alors, bien sûr, ensuite, l'Église, elle va développer tout cela, va préciser un certain nombre de points, parce qu'il faut bien, comme ça reste un peu, parfois un peu général, si vous voulez. Donc il est normal que l'Église ensuite ait précisé certains points, mais si vous regardez bien les choses, et l'Église n'a pas, elle-même n'a pas tellement légiféré. Hein. Bon, il y a les lois, peut-être de la liturgie, le droit canon, tout ça, mais ça, c'est un petit peu pour mettre de l'ordre dans l'Église, voilà, pour que chacun soit à sa place et y fasse ce qu'il doit faire. Mais sous le rapport de la morale, qu'est-ce que l'Église a ajouté comme loi? Très peu de choses. Les commandements de l'Église. Et ça se limite à quoi? Très peu de choses. C'est vraiment notre loi, la loi nouvelle, c'est quelque chose de très, très simple, qui se ramène à très peu de préceptes. Très peu de préceptes. Hein, qui, sous ce rapport-là, est beaucoup plus simple, justement, beaucoup plus légère que la loi ancienne. Ouais. Il y a une foule de préceptes et d'interdictions. Mais non, c'est très, très peu de choses. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce soit plus facile. Hein. Parce que la loi nouvelle, eh bien, elle nous prend précisément au-dedans de nous. Alors que la loi ancienne, bon, prenez les hommes peut-être d'une façon plus extérieure. La loi nouvelle, eh bien, nous prend par le dedans de nous-mêmes. Voici la définition de cette loi nouvelle, enfin définition si l'on veut, que nous donne saint Thomas d'Aquin, car il traite bien sûr de cette loi nouvelle. Voici un petit peu ouais, comment il nous décrit cette loi nouvelle, et c'est vrai que tout se ramène à cela. Ce qu'il y a de plus important dans la loi nouvelle, ce en quoi réside toute sa force, voilà, en quoi réside toute la force de la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit Saint donnée par la foi au Christ. Voilà la loi nouvelle, oui. La grâce du Saint-Esprit donnée par la foi au Christ. Voilà notre loi, la grâce. La grâce. Nous en parlerons une autre fois, je m'en vais de la grâce. Oui. La grâce, moi, un petit peu ce dont nous parlions, oui, cette transformation intérieure de notre âme par ce don gratuit de Dieu de sa présence, la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, eh bien, c'est ce don, voyez, de Dieu, de sa propre vie, de sa propre substance à notre âme, voilà, pour l'embellir, la purifier et pour y faire sa demeure. Ouais. La grâce de l'Esprit Saint. Bon, l'Esprit Saint, ça fait appel donc à toute la Sainte Trinité. Ouais. Car si le Saint-Esprit est là, il est certain que le Père et le Fils y sont aussi. Ouais. On n'a jamais une personne sans les deux autres. Ouais. Et donner, quelle est l'origine, ouais, le point de départ? Eh bien, bien sûr, c'est la foi au Christ. La foi au Christ. Voilà notre loi. Et si vous regardez là, je crois qu'on l'a déjà dit une fois ou l'autre, mais enfin, ce n'est jamais superflu de revenir à ces choses-là, car tout est pour nous très très enrichissant, justement, dans ce qu'a fait l'Église, c'est le cérémonial du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Voilà. Ce que l'enfant demande à l'Église, la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Que la foi s'en aille et tout s'en va. C'est fini. Celui qui ne croit plus en Jésus-Christ, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de charité, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus rien. C'est fini. Le point de départ, le début du salut, de la justification, c'est la foi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple, dirais-je, que de poser un acte de foi? Est-ce que c'est difficile de poser un acte de foi? Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Est-ce que ça nous demande des efforts surhumains, tu sais? Un acte de foi. Voilà, dire à Jésus-Christ, je crois, simplement, je crois en vous. Comme disait l'aveugle ce matin dans l'Évangile, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. C'est un acte de foi, ça. Un acte de foi. Voilà. Alors, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Oui, voilà, vous avez là tout le résumé de la morale chrétienne. Et ensuite, le prêtre, que dit le prêtre à l'enfant? Eh bien, si tu veux obtenir la vie éternelle, tu observeras les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. Et ensuite, eh bien, on donne à ce moment-là, à l'enfant qui demande la foi et qui veut donc acquérir la vie éternelle, le commandement, l'unique commandement presque, le commandement de la charité. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà la morale chrétienne. La foi au départ et à l'arrivée, si l'on peut dire, comme conclusion, l'aboutissement, eh bien, c'est la charité. C'est la pratique de l'amour, bien sûr. Car une foi qui ne conduit pas à l'amour, qu'est-ce que c'est? Une foi morte, une foi stérile, une foi qui ne produit rien, c'est une foi qui est inutile à la limite. Ouais. C'est bien de croire, mais est-ce que ça suffit? Non, certainement pas. Ouais. Et qu'est-ce qui va donner justement à notre foi sa vie? Qu'est-ce qui va lui permettre d'opérer, de réaliser des œuvres et d'aimer, donc de pratiquer l'amour? Eh bien, c'est la grâce. La grâce qui est la vie de Dieu. Or, Dieu est charité. Dieu est amour. La vie de Dieu, c'est d'aimer. Eh bien, par le don de la grâce, eh bien, Dieu va nous permettre et va nous apprendre à aimer. À l'aimer lui comme on doit l'aimer et à aimer notre prochain comme lui aime notre prochain. Voilà la morale chrétienne. C'est magnifique, ça. Et c'est très simple. Ce n'est pas une question de permis, défendu, ceci, cela. Non. C'est beaucoup plus beau que ça. Beaucoup plus léger, beaucoup plus enthousiasmant que ces simples morales du... On dirait du permis et du défendu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses permises et des choses défendues. Hein. Mais tout cela doit être, vous voyez, baigné ou imprégné justement d'un autre esprit. Vous voyez. Si c'est permis et si c'est défendu, c'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est parce que c'est contraire à l'amour. Si c'est défendu, c'est parce que ça ne conduit pas à l'amour. Et si c'est permis et si c'est commandé, c'est parce que ça conduit à l'amour. Voilà, c'est tout. Et ne nous faisons pas d'illusions, vous savez, tous les commandements que vous trouverez dans l'Évangile, dans ce sermon sur la montagne, ou les commandements que nous donne l'Église, mais c'est cela. Ce ne sont pas des commandements militaires, vous voyez, pour ceci ou cela, non, c'est simplement des indications pour nous apprendre à aimer. Si l'Église, par exemple, nous demande d'aller à la messe tous les dimanches, pourquoi? Est-ce que c'est pour nous embêter? Est-ce que c'est pour nous... Ceci, certainement pas. Mais tout simplement parce que l'Église sait très bien... Elle le sait, quand même. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. Elle sait très bien que nous avons besoin de Jésus-Christ pour aller au paradis, justement, puisque la loi, c'est la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. Oui. Elle sait très bien que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et nous avons besoin, fréquemment, eh bien, d'aller vers Jésus-Christ pour eh bien, vivre un petit peu, un petit moment d'intimité avec lui, ouais, pour prendre contact un petit peu avec son amour, avec la façon dont il nous a aimés, pour en repartir plus généreux, plus courageux, plus décidé. Elle sait très bien que nous avons besoin de cela. Elle sait très bien que nous sommes faibles, des pauvres enfants. Alors on lui dit, ben venez là, fréquemment, régulièrement, venez un petit peu au pied de la croix de mon fils, venez là, venez voir un petit peu votre sauveur, et puis venez là, bien méditer un petit peu ce grand acte d'amour qu'il a posé pour vous, et puis venez communier à sa vie, voilà, puis après repartez. Voilà. Ce commandement, c'est une expression de l'amour de l'Église. Et tous les commandements de Dieu et tous les interdits de Dieu sont des expressions de son amour. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous empêcher de nous amuser. C'est absolument pas. Le bon Dieu a autre chose à faire qu'à vouloir nous embêter, pensez donc. Bon. Il veut nous conduire vers l'éternité, il veut nous conduire vers le bonheur. Voilà. Et il nous donne des conseils et parfois des obligations. Il dit, si vous faites autrement, eh bien vous allez vous perdre. Bon, si vous voulez vous perdre, eh bien allez-y. Bah, je crois qu'on a autre chose à faire quand même. Ouais. Mais encore faut-il avoir compris justement ce qu'était cette loi de l'Évangile. Hein. Pas une loi de la crainte, bien sûr, pas une loi de la contrainte même. Une loi d'amour, oui, c'est vrai. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur cette question de la loi, et nous allons peut-être un peu rapidement voir ce que saint Thomas nous en dit sur cette loi nouvelle. C'est un tout petit... Il en parle de façon très, très rapide, vous voyez. Trois petites questions, c'est vite expédié chez saint Thomas, mais c'est d'une telle densité que nous n'en finirions pas de commenter, de déchiffrer tout cela. Ouais. Et il commence bien sûr par nous dire ce que nous venons de dire, ouais, que la loi, justement, cette loi nouvelle, est d'abord une loi inscrite dans nos cœurs. C'est une loi qui est infusée dans nos cœurs. Ouais. C'est la grâce de l'Esprit-Saint qui nous est donné par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui est gravé dans notre cœur au jour de notre baptême. Ouais, lorsque nous recevons la grâce du baptême, eh bien nous recevons en nous la loi nouvelle. Ouais, de quoi conformer notre vie, justement, à la volonté de Dieu. Maintenant, il est certain quand même que cette loi nouvelle, dont l'élément essentiel est cette grâce intérieure, comporte également des éléments extérieurs. Il y a donc également une loi écrite. C'est ce que nous avons justement dans ce serment sur la montagne. Une loi écrite, pourquoi? Eh bien, dit saint Thomas, parce qu'il y a des vérités qui nous disposent à la grâce. Vous voyez, qui sont comme des dispositions à la grâce. Et l'Évangile, par exemple, eh bien, nous prépare notre intelligence à la grâce en nous parlant de Jésus-Christ, en nous parlant de sa divinité, de son humanité. Vous voyez. Bon, il nous enseigne pour nous disposer justement à cet acte de foi, pour nous conduire à cet acte de foi. Oui, il y a donc dans la loi nouvelle également eh bien, des éléments écrits qui ont pour but de nous préparer, de nous disposer à cet acte de foi, de nous disposer donc à recevoir la grâce. Et puis ensuite, il y a également des prescriptions qui ont pour but eh bien, de nous montrer, de nous indiquer, de nous aider à bien user de la grâce. Car cette grâce reçue, mais c'est bien, elle est là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais en user? Alors vous aurez d'autres préceptes qui vont vous dire, voilà, eh bien, voilà comment il faut vivre. Voilà comment il faut pratiquer la vertu. Vous êtes en état de grâce, vous avez la foi au Christ, vous avez la loi nouvelle. Eh bien, maintenant, il s'agit de pratiquer la vertu. Vous voyez, donc vous aurez dans la loi nouvelle également des éléments écrits qui auront pour but soit de nous disposer, donc à poser cet acte de foi, soit eh bien, de nous indiquer comment pratiquer la vertu une fois que nous avons reçu cette loi nouvelle. Et qu'est-ce qui justifie dans cette loi nouvelle, attention, eh bien, c'est son élément intérieur, hein. C'est cette grâce. Ce ne sont pas les pratiques extérieures. Hein. Les pratiques extérieures sont insuffisantes. Nous pouvons très bien aller à la messe tous les dimanches. Nous pouvons très bien faire l'aumône. Nous pouvons très bien peut-être être bons avec Pierre, Paul ou Jacques. Mais tout cela, c'est du domaine extérieur. Si au fond de nous-mêmes, il n'y a pas la foi au Christ, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, tout cela ne sert à rien. Là, c'est l'épître de ce matin. Si je n'ai pas la charité, et la charité c'est la grâce, hein, c'est la même chose, la grâce et la charité, c'est la même réalité. Si je n'ai pas la grâce, si je ne suis pas en état de grâce, cela ne sert à rien. Cela ne produit rien pour l'éternité. C'est bien, bien sûr, il vaut mieux être bon avec son voisin que méchant, c'est vrai, mais si je n'ai pas la grâce, cela ne sert à rien. Et c'est voilà. Oui, c'est ce qui justifie et ce qui donne à mes actes leur valeur méritoire pour l'éternité, c'est la grâce qui est en moi, c'est la présence du Saint-Esprit qui est en moi, et c'est la foi en Jésus-Christ. Tout ce qui fait en dehors de ça est bon au plan naturel, peut-être, bien sûr, mais au plan surnaturel ne vaut rien, ne vaut rien. Oui. Donc c'est cet élément intérieur dans la loi nouvelle, bien sûr, qui est le plus important, car c'est lui qui justifie. Et cette loi nouvelle est la loi définitive. Il n'y en aura pas d'autre. N'en attendez pas d'autre. Méfiez-vous des prophètes du troisième âge ou du quatrième âge ou du New Age ou de je ne sais quoi. Tout ça, c'est du démon. Et du démon, je crois que c'est clair, j'espère que pour chacun d'entre vous c'est clair tout cela, et tout cela c'est du démon. Nous n'avons plus rien à attendre, notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a conduit, il nous conduit à la porte du ciel, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qui peut prétendre venir ajouter encore quelque chose à cela? Il nous conduit là, à la porte du paradis, à l'entrée du ciel, bon, qu'est-ce que vous voulez ajouter à cela? Une fois qu'on est à l'entrée du ciel, ben, il n'y a plus que le ciel, et ça c'est Jésus-Christ aussi, et personne ne peut faire suite à Jésus-Christ pour prétendre nous enseigner quelque chose de nouveau. Ouais. Nous n'avons plus de révélation nouvelle à attendre, nous n'avons plus de nouvel âge à attendre, que ce soit l'âge du Saint-Esprit. L'âge du Saint-Esprit, mais nous y sommes déjà depuis longtemps, depuis la Pentecôte. L'âge de Jésus-Christ et l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge de l'Église. Et ça, c'est l'âge de la fin des temps, c'est fini. Nous sommes dans la fin des temps. Je ne sais pas quand ça finira, j'en sais rien, mais ça peut durer longtemps encore, ça, c'est Dieu seul le sait. Mais c'est fini, nous sommes dans la dernière étape de l'humanité. Et Dieu est venu, Jésus-Christ s'est incarné, Dieu s'est incarné, nous a donné sa loi, voilà. Plus personne, même Dieu lui-même à la limite, ne pourrait rien ajouter à cela. Il nous a tout dit en nous donnant son Fils. Le Fils est le Verbe de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. En nous donnant son Fils, Dieu nous a donné sa parole. Sa parole, toute sa parole. Et pas la moitié ou le quart de sa parole, toute sa parole. Qui peut prétendre ajouter quelque chose à cela? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ce cinéma? C'est fini. Nous sommes dans le dernier âge de l'humanité. Nous savons tout ce que nous avons à savoir et personne n'a plus rien à nous enseigner que l'Église. L'Église, ah, d'accord, oui. Et l'Église qui est l'épouse mystique de Jésus-Christ, l'Église qui est le corps mystique de Jésus-Christ et qui nous parle au nom de Jésus-Christ et qui ne fait que nous répéter ce que Jésus-Christ nous a dit. Le rôle de l'Église n'est pas autre que de répéter ce que Jésus-Christ nous a dit, en expliquant, en développant, bien sûr, ça c'est évident. Il y a parfois des choses à expliquer un petit peu, parce que l'Évangile est parfois un petit peu difficile à comprendre. Donc l'Église examine, scrute un peu le sens des Écritures, et nous dit voilà ce que cela signifie, mais elle n'ajoute rien. Elle n'ajoute rien à ce qui est contenu dans les Écritures. Voilà. C'est fini. Vous voyez, cette loi nouvelle est là. Et la loi ultime, après laquelle, eh bien, il n'y aura plus que la loi, il y aurait la loi de l'éternité, la loi de la gloire, si vous voulez. Bon, ça sera le bonheur éternel, mais entre la loi nouvelle, la loi évangélique et la loi de la gloire, il n'y a pas d'autre loi à attendre ou à essayer d'élaborer. Oui, Saint Jean Chrysostome, par exemple, nous dit, explique cette parole de notre Seigneur lorsque Jésus-Christ nous dit « Je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. » Alors bien sûr, il y a des gens qui vont chipoter un peu, mais enfin quoi, vous voyez, il s'est trompé. « Je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. » Or, vous voyez, ils sont morts. Et puis, depuis, il y a encore d'autres et d'autres générations. Et puis, ma foi, ben, on attend toujours. Le Fils de l'homme n'est toujours pas revenu, etc. Et comment Saint Jean Chrysostome explique-t-il cela? Eh bien, pour lui, le mot « génération » désigne tout simplement les fidèles du Christ. Le mot « génération », c'est l'Église. Et voilà, tout simplement, ce sont tous les fidèles, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et nous formons effectivement une nouvelle génération. À nous tous, là, depuis les premiers chrétiens jusqu'aux derniers chrétiens, c'est la génération des fidèles du Christ. Eh bien, cette génération, effectivement, ne passera pas avant que tout ne soit accompli, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire. Alors, quels sont les rapports entre la loi nouvelle et la loi ancienne? Ben, je pense que vous avez déjà un petit peu compris la chose avec ce que nous disions la fois précédente. Il est certain que l'une et l'autre loi, loi ancienne et loi nouvelle, ont la même finalité. Les deux veulent nous conduire à Dieu. Les deux veulent nous amener à soumettre notre esprit, notre intelligence, notre volonté, notre cœur, notre âme à Dieu, par l'obéissance, par l'amour. Voilà, bien sûr, les deux. Simplement, les deux, ces deux lois diffèrent eh bien en fonction justement de l'état de, disons, de maturité de l'humanité. Vous avez l'humanité qui était dans L'état d'enfance, saint Paul nous en parlait, ou encore ce matin, oui, dans l'épître, là, lorsque j'étais un enfant, eh bien, je parlais comme un enfant, et quand je suis un enfant, eh bien, on me traite comme un enfant. Et quand je suis un enfant, eh bien, j'ai des pédagogues, et puis qui manient un petit peu le martinet, tout ce que la récompense, la punition, parce que je ne suis pas encore tout à fait capable, moi-même, hein, de me conduire tout seul. Voilà. Donc, on utilise quelques arguments un peu plus frappants. Enfin, voilà, bon. Une certaine contrainte, parfois, une certaine crainte, oui. Les commandements, les interdictions. Bon, très bien. Ça, c'est la loi de l'enfance, oui, qui est normale, qui est légitime. Eh bien, l'Ancien Testament, c'était un petit peu cela. C'est une sorte de loi de, pour des fidèles un peu en voie de développement, si on veut, ou sous-développés, qu'on voudrait. Ça dépend comment on regarde les choses. Oui. Voilà, bien. Et puis ensuite, eh bien, vous avez la loi nouvelle, qui est la loi de la perfection pour les adultes. Pour les adultes, oui. Et c'est la loi de la charité, et qui est une loi de plus grande liberté. C'est vrai, une loi de plus grande liberté. Ce que nous disions tout à l'heure, oui, beaucoup moins de prescriptions, beaucoup moins de préceptes. Hein. Qu'est-ce qui est prescrit ou interdit dans la loi nouvelle? Uniquement ce qui est nécessaire pour aller au salut. Cela est prescrit, ce qui est strictement nécessaire pour aller au salut. Et ce qui est interdit, ce qui est, mais c'est ce qui nous est l'obstacle pour le salut. Alors, donc, on prescrit ce qui est nécessaire et on interdit ce qui est contraire au salut. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres choses, eh bien, qui sont un petit peu indifférentes, oui, qui peuvent être utiles, qui peuvent être inutiles. Oui. Eh bien là, l'Évangile nous laisse libres. Jésus-Christ, Dieu, nous laisse libres. Il nous dit, eh bien, écoutez maintenant, eh bien, écoutez précisément la loi nouvelle qui est inscrite dans votre cœur. Vous avez quelques préceptes, bon, cela, il n'y a pas de problème. Il faut vous y tenir, sinon c'est la catastrophe. Maintenant, eh bien, si vous voulez mieux faire, vous le pouvez, mais ça, c'est à vous de choisir. Voilà, vous avez en moi la loi nouvelle, vous avez en moi la voix du Saint-Esprit, qui vous pousse sans doute à essayer d'être plus généreux. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Si vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, ben, peut-être, sauverez-vous votre âme, c'est possible. Mais si vous l'écoutez, cette voix du Saint-Esprit, eh bien, vous aurez beaucoup plus de certitude et de garantie, eh bien, de sauver votre âme. Ouais. Une sorte de... Oui, donc cette loi nouvelle que l'on appelle souvent, la loi de l'Évangile, loi de la liberté, parce que c'est vrai, nous sommes beaucoup plus laissés un peu, eh bien, au gouvernement de nous-mêmes. Ouais. Voilà, nous avons la partie extérieure, bon, nous la connaissons, et puis nous avons la loi intérieure, eh bien, c'est là que Jésus-Christ nous attend. Ouais. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Est-ce que c'est vrai, quand nous lui disons tous les jours, mon Dieu, je vous aime plus que tout, est-ce que vraiment, dans tous les petits détails de notre vie, où là, nous avons le choix entre le bien et le mieux, bon, le moins bien, etc., bon, le médiocre, l'imparfait, sans aller jusqu'au péché, est-ce que vraiment, à chaque fois, eh bien, nous choisissons eh bien, ce qui lui est le plus agréable, ce qui lui plaît? Et quand on aime quelqu'un, enfin, bonne mère, quand on aime quelqu'un, on n'hésite pas à lui faire des cadeaux, hein, aller le voir un petit peu, lui faire des bisous, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, enfin des tas de choses, hein. On fait tout ce qu'on peut pour lui faire plaisir, c'est vrai, non, je crois, du moins, il me semble. Eh bien, avec le bon Dieu, qu'est-ce qu'on attend? On est là à se limiter, c'est permis, c'est défendu, bon, puisque ce n'est pas défendu, je peux le faire. Voyez un petit peu, chez moi, la loi, la grâce du Saint-Esprit qui est dans vos cœurs, voyez un petit peu ce qu'il vous dit. Est-ce que parfois il ne nous pousse pas à être un peu plus généreux, à être un peu plus affectueux pour le bon Dieu, à lui donner un petit peu plus. Oui. Ah, c'est plus difficile, hein? C'est plus difficile, justement. Et c'est là que la loi nouvelle est souvent beaucoup plus difficile que la loi ancienne. Je dirais, à la limite, la loi ancienne, suffisait de se mettre au garde-à-vous et puis d'obéir. Voilà, bon, c'est dans la loi, faut le faire, faut pas le faire, ça va bien, bon, avec ça, ça ira bien. Et maintenant, il faut être, je dirais, plus intelligent. Mais d'une intelligence intérieure, ouais, l'intelligence de l'amour, ouais. Et c'est parfois plus difficile, oui. Parce que là, ça nous demande eh bien, de prendre sur nous-mêmes et de faire les choses volontairement, de choisir, oui. C'est là l'usage de la liberté, le bel usage de la liberté. Oui. J'ai la grâce en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi qui me donne des indications, qui me pousse dans un certain sens. Je ne suis pas obligé, il ne me contraint pas, il ne me force pas, je peux très bien refuser. C'est possible. Eh bien, quel usage vais-je faire de ma liberté? Et le bel usage à faire de ma liberté, eh bien, je sens cette impulsion-là. C'est une inspiration, c'est une idée, c'est un bon désir, c'est tout ce qu'on peut, bon, tout ce qui peut nous arriver quand même. Eh bien, devant ce choix, devant cette possibilité, eh bien, je choisis. Je choisis de moi-même, librement, volontairement, eh bien de faire ce que je sens être bien. Faire de moi-même ce que je sens être agréable à Dieu. Plutôt que de, ben voilà, de rester tranquille dans mon petit coin comme ça. D'accord, je n'ai pas fait de péché, mais enfin, bon, ben voilà, le bon Dieu, il attendra une autre occasion. Mais est-ce que c'est vraiment aimer Dieu, ça? Est-ce que c'est vraiment l'aimer plus que tout? Ouais. Et c'est sous cet aspect, sans doute, voyez, de vie intérieure, d'action intérieure, justement, que la loi nouvelle est beaucoup plus onéreuse, beaucoup plus difficile, parfois, que la loi ancienne. Voyez. Si l'on peut dire que la loi ancienne était plus lourde à porter à cause de ses multiples prescriptions, il y a de quoi s'y perdre, hein, si vous lisez tous les chapitres là, de l'Ancien Testament, il y a de quoi s'y perdre, hein, ça c'est vrai, hein, il y en a tellement de prescriptions, il y a de quoi devenir fou un petit peu, quoi, hein. La loi nouvelle est beaucoup plus simple sous ce rapport-là, mais alors au plan intérieur, hein, la loi nouvelle est beaucoup plus exigeante sans doute, hein, que la loi ancienne. Ce n'est pas une loi de la facilité. Hein. Alors que contient-elle cette loi? Il faut quand même regarder un petit peu le contenu, la substance un peu de cette loi. Bien, elle contient bien sûr des œuvres extérieures. Elle va prescrire des œuvres extérieures. Et puis, elle va prescrire également des actes intérieurs. Et les œuvres extérieures que va nous prescrire la loi nouvelle se rapportent à la grâce de deux façons. Tout d'abord, nous l'évoquions un petit peu tout à l'heure, il y a des moyens qui nous conduisent à la grâce, des moyens qui vont nous communiquer à la grâce. Eh bien, ce sont par exemple les sacrements. Les sacrements, vous voyez, les sacrements, ce sont des œuvres extérieures, voyez, des moyens extérieurs à utiliser pour parvenir à la grâce. Voyez. Et ça fait partie de notre condition. Nous sommes des êtres de chair et de sang et nous avons besoin de moyens sensibles pour parvenir à cette réalité insensible qui est la grâce. La grâce, c'est du domaine insensible. Vous ne verrez jamais la grâce. Hein. Ne cherchez pas à la voir, je ne sais pas où, etc. Vous ne la verrez jamais. C'est une qualité de l'âme, c'est quelque chose de tout à fait insensible. Mais nous avons besoin, puisque nous sommes des êtres humains, eh bien de moyens sensibles pour parvenir à cette grâce. Eh bien, ce sont les sacrements, voyez, qui nous conduisent à la grâce. Et donc la loi nouvelle, effectivement, comporte des prescriptions sacramentelles. Et Jésus-Christ va instituer des sacrements, 7 sacrements, pour nous conduire à la grâce. Et puis il y a d'autres actes extérieurs qui, eux, au contraire, sont les expressions extérieures de la grâce, voyez, sous tous ces actes que nous produisons sous l'impulsion de la grâce. Et c'est là que la loi également intervient, en nous rappelant finalement la loi nouvelle pour toutes ces œuvres extérieures à poser ou à ne pas poser, se ramène pratiquement à la loi au décalogue. Mais il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc. Mais pratiquement, on peut ramener tout cela à cela. Quant aux actes extérieurs, hein, je m'entends, attention. Les actes extérieurs prescrits par la loi nouvelle sont ceux qui conduisent à la grâce, les sacrements, et sont ceux qui expriment la grâce, qui expriment la charité. Et cela, bien, ce sont pratiquement les préceptes du décalogue. Et ce qu'il y a de plus intéressant, puisque c'est là l'élément essentiel dans la loi nouvelle, eh bien, ce sont ces actes intérieurs. Oui. Ce sont ces actes intérieurs. Et c'est là que saint Thomas d'Aquin nous donne, très bref, c'est très dense, hein, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais enfin, nous donne une petite analyse de ce serment sur la montagne. Et c'est très, très beau. Oui. Voici ce qu'il dit. Dans le serment sur la montagne, qui renferme la plus haute perfection de la vie chrétienne, les actes intérieurs sont parfaitement réglés. Tous les actes intérieurs sont réglés par ce serment sur la montagne. Après avoir fait connaître la fin de l'homme, qui consiste dans la béatitude. Voilà. Là, c'est ce premier passage, les premiers versets, jusqu'au verset 12, hein, verset 2 à 12 du chapitre 5, et bien ce sont les béatitudes. Voilà. Mais notre Seigneur nous rappelle justement, il dit, bon, avant de nous donner la loi, il dit, voilà pourquoi, en gros, je vais vous donner cette loi. Tout ce que je vais vous dire, eh bien, c'est pour vous conduire à la béatitude. Voilà, béati, béati, pauperes spiritu. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui pleurent, Bienheureux ceux qui sont affamés, altérés de justice. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux les pacifiques. Pacifiques. Pas les pacifistes, autre chose. Eh oui, les artisans de paix, si vous préférez. Et parfois, pour être artisan de paix, ben parfois il faut utiliser l'épée. Pas toujours. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, la deuxième béatitude qui est au présent. Vous en avez deux au présent. La première, et puis celle-ci. La pauvreté, vous voyez, nous garantit eh bien, de posséder le royaume de Dieu. Et puis cette dernière-là, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Attention, hein. C'est pas parce qu'on est malheureux, parce qu'il y a le voisin qui m'embête, que... Non, ça, c'est autre chose. Hein. Ceux qui souffrent persécution pour la justice, et la justice, le royaume de Dieu, bien sûr. Hein. Parce que le royaume des cieux est à eux. Il est à eux, à ce moment-là. Voyez, quand on nous persécute, voyez, pour le royaume de Dieu, pour la vérité, pour notre foi, et que nous tenons bon, bien sûr, hein, ça va de soi. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu est en eux. Il est en nous. Et c'est Dieu lui-même qui monte la garde. C'est Dieu qui nous défend. Et c'est lui qui nous protège contre ceux qui nous persécutent et qui nous donne la force de résister. Bienheureux. Bienheureux. On prend des coups, d'accord, mais Dieu est en nous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'on nous coupe les mains, les pieds, la tête, tout ça. Le royaume de Dieu est en moi. Pouf. Allez-y, coupe-moi la tête, c'est fini, terminé. C'est tranquille pour l'éternité. Dieu gracias. Bon, ben voilà. Et c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je ne dis pas que ce soit très naturel, ça, très humain, mais si nous étions vraiment chrétiens, mais on n'attendrait que ça. Mais... Bon, il ne faut pas courir au-devant, attention. Hein, ça, c'est... Hein. En tout cas, nous n'aurions pas peur. Nous n'aurions pas peur. Qui viennent les ennemis de l'Église, qui viennent les communistes, qui viennent Gorbatchev, qui viennent je ne sais pas qui. Ben, ma foi, si nous persécutent, si nous mettent à mort, ben, ma foi, ben, on ira au paradis. Bon, voilà. Ils ne sont pas obligés de presser, mais enfin, on verra. Eh oui, bienheureux serez-vous, etc. Réjouissez-vous alors et tressaillez d'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. Eh oui, notre récompense est grande dans le ciel. Voilà, donc notre Seigneur commence seulement par nous fixer un petit peu ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour le royaume des cieux. Nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes faits pour la béatitude. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Alors ensuite, eh bien, il va commencer à nous détailler un petit peu, nous donner quelques conseils pour y parvenir. Vous avez, on verra ça peut-être si on a le temps un peu plus tard, ça. Commençons par voir. Ensuite, vous avez un deuxième passage dans ce serment sur la montagne. Notre Seigneur s'adresse plus particulièrement aux apôtres à ce moment-là. Il fixe d'abord les béatitudes, là, pour tout le monde, et ensuite il parle un peu à ses apôtres en leur disant « Vous êtes le sel de la terre ». Donc il affirme un peu devant les foules, il proclame devant les foules un peu justement la dignité de l'apostolat et le rôle des apôtres, ce que nous dit saint Thomas. Après avoir fait connaître la fin de l'homme qui consiste dans la béatitude et relevé la dignité de l'apostolat, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça sont des conseils qu'il donne à ses apôtres. Il y a tous ceux qui suivront ensuite les apôtres, les évêques, les prêtres, etc. Donc il leur fixe un peu leur mission, leur rôle, être le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ensuite alors qu'il va en venir au mouvement intérieur, qu'il va nous donner quelques indications quant au mouvement intérieur de notre âme, par rapport à nous-mêmes d'abord et ensuite par rapport au prochain. Par rapport à nous-mêmes tout d'abord. Par rapport à nous-mêmes, il va régler notre volonté conformément aux divers préceptes de la loi. Baisser d'orienter notre volonté, oui, pour être docile aux préceptes de la loi. Et il veut que l'on s'abstienne non seulement des actes extérieurs qui sont mauvais par eux-mêmes, non seulement ça, ne pas tuer, par exemple, etc., bien sûr, mais il veut également que l'on s'abstienne, et c'est là que la loi nouvelle est plus exigeante, des actes intérieurs et des occasions du péché. Ça va beaucoup plus loin, oui. Il ne suffit plus aujourd'hui de ne plus tuer, de ne plus mentir, de ne plus voler. Il y a encore des actes intérieurs, oui. Bon, c'est très très beau passage, oui. Vous connaissez tout cela, je pense, vous les avez lus, entendus au moins. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Bon, ça demeure, attention. Hein. Bon, voilà. Et quiconque tuera méritera d'être condamné par le jugement. Très bien. Et moi, je vous dis, Et moi, je vous dis, eh bien, qu'il faut aller encore plus loin que cela. Ne vous contentez pas de ne pas tuer. Je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Voilà. Même punition. Que vous tuiez ou que vous mettiez en colère intérieurement, c'est pareil. Mais c'est peut-être pas très facile, hein, parfois, de ne pas avoir au fond de soi-même des mouvements de rancœur, de ressentiment, de colère contre tel ou tel. Ouais. Il ne suffit pas de ne pas le manifester extérieurement. C'est bien déjà, bien sûr, ça. Bon. Mais intérieurement, voilà, garder son âme dans la paix, garder son âme dans la charité, revenir à la grâce du Saint-Esprit donnée par la foi au Christ. Il faut toujours en revenir à cela. Revenir au Saint-Esprit, revenir à la présence de la Trinité Sainte dans mon âme. Quels sont les sentiments de la Sainte Trinité à l'égard de cette personne qui me fait du mal? Des sentiments de miséricorde, sans doute. Sans doute. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est autre chose, ça. Hein. C'est une autre allure que de ne pas tuer. Hein. Eh oui, si vous présentez votre offrande à l'autel et vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, pensons, ça, les vieilles rancunes, là, comme ça, qui nous suivent, et puis... Eh bien, laissez là votre don devant l'autel. C'est pas la peine de venir à l'autel. Ça ne m'intéresse pas. Oui, ça n'intéresse pas le bon Dieu, ça. Hein. Si dans notre cœur, nous avons des rancunes, des trucs et des machins qui nous suivent comme ça, qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Et puis ensuite, vous reviendrez offrir votre don. Voilà. Oui, c'est cette conversion du cœur qu'il veut. Ouais. Eh oui, ouais, tout cela. Vous aviez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Bien sûr, cela est maintenu, c'est vrai. Mais moi, je vous dis que quiconque aura regardé une femme avec un désir pour elle a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est autre chose, ça. Ouais, vous voyez un petit peu le niveau de perfection auquel nous conduit la loi nouvelle. Ouais. La loi ancienne nous y préparait, bien sûr, bon, en réglant un peu l'extérieur. Et maintenant, il s'agit d'aller à l'intérieur, au fond de nous-mêmes. Ouais. Donc, oui, des actes intérieurs même qui nous sont interdits. Et même les occasions de péché, les occasions du péché. Oui. Notre Seigneur va très loin. Hein. Les occasions du péché, bien sûr, c'est une parabole un petit peu. Hein. Bon, il ne faut pas prendre toujours tout ce qu'il dit à la lettre exactement. Si votre œil droit vous scandalise, arrachez-le. Bon, attention, c'est, voilà, commencez pas à vous éborgner, là. Bon, il faut comprendre simplement, s'il y a en vous des occasions de péché, eh bien, il faut les arracher. Intérieurement, au moins, nous avons tous, en nous, des mauvaises tendances et des inclinations au péché. Mais c'est cela qu'il faut arracher, c'est cela qu'il faut déraciner. Il ne suffit pas de ne pas pécher, encore une fois. Il faut arracher de notre cœur tout ce qui nous porte vers le péché. C'est cela qu'il veut dire. Hein, si votre œil droit vous scandalise, arrachez-le, jetez-le loin de vous. Si votre main droite vous scandalise, coupez-la, jetez-la loin de vous. Car il vaut mieux, et bien sûr, même à la lettre, à la limite, hein, ça... Bon, enfin, voilà. Il vaut mieux rentrer dans l'éternité. Il vaut mieux pour vous qu'un des membres de votre corps périsse, que tout votre corps soit jeté dans l'enfer. Qu'est-ce que vous voulez, bon. Etc. Ouais. On a toute une série là de préceptes, hein, pour régler un peu nos actes intérieurs et même, oui, éviter, fuir, éliminer de notre vie les occasions et les tendances au péché. Et ensuite, il y a même une série de conseils, oui, qu'il nous donne. Des conseils, là, ça va un petit peu plus loin. Oui. Tu sais, si vous lisez ça vraiment en méditant, hein, ça c'est un beau passage, là, il faudrait que beaucoup méditent, nous tous nous méditions. Contentez-vous de dire oui, oui, non, non. Ouais, voilà, que votre parole soit, eh bien, soit vraie, simplement. Ouais, Bon, enfin, combien de fois on tourne autour du pot, on raconte des monuments pour ne pas dire la vérité, mais oui, oui, non, non, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. C'est tout bête, c'est tout simple. Et on a besoin de la vérité, et les hommes ont besoin de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Chaque fois que nous refusons la vérité à quelqu'un, nous le refusons Jésus-Christ. Eh oui, nous le refusons, eh bien, ce que Dieu a établi. Voilà, la réalité est telle qu'elle est, etc. Mais c'est manquer de charité, ça. Alors, c'est pas toujours agréable, eh bien, c'est pas toujours facile, non plus, de dire la vérité à quelqu'un. Bon, c'est... Mais voilà, très simplement. Oui, oui, non, non.
pas de boniment.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la stricte justice. Voilà, il m'a fait ceci, donc voilà, il faut réparer. Bon, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Et moi, je vous dis de ne point résister au mal que l'on veut vous faire. Ne résiste pas. Quelle importance. Ouais. Et si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, bien présentez-lui l'autre. Bon, attention. Mais comprenez un petit peu ce que cela signifie. Nous sommes toujours en train de nous battre parce qu'on nous a manqué d'égards, on n'a pas respecté nos droits, on a été injuste envers moi. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Regardez notre Seigneur, enfin. Regardez notre Seigneur, dites. Est-ce qu'il n'avait pas tous les droits, lui? Et dans quel état on l'a réduit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il se taisait. Et il aurait pu, dit-il, mais attention, hey, je suis fils de Dieu, moi je suis Dieu, alors dis donc. Hein, vous allez me considérer un peu, parlez-moi sur un autre ton, etc. Rien. Il a tout accepté, tout accepté. Pourquoi? Eh bien, par amour pour son Père, pour faire la volonté de son Père et pour sauver nos âmes. Eh bien, il peut arriver, nous aussi, que nous soyons victimes d'injustice, bien sûr. Bon, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de nous battre et de rentrer dans des querelles impossibles et des combats et des conflits qui n'en finissent plus, etc., et des rancunes et des méchancetés, etc.? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Nous qui sommes chrétiens, baptisés, nous qui sommes frères de Jésus-Christ, bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, mais peut-être être victime d'une injustice? Bon, puis offrir ça au bon Dieu. Puis voilà. Bienheureux, vous qui êtes persécutés. Bienheureux. Le royaume des cieux vous appartient. Ben, ma foi. Bon, attention, je ne dis pas que ce soit appliqué dans tous les cas, mais bon, réfléchissons-y un petit peu. Hein. Et si quelqu'un veut vous contraindre de faire 1000 pas avec lui, ben faites encore 2000. Allez, voyez encore un peu plus. Oui. Mais oui, c'est vrai, c'est cette générosité chrétienne. Le chrétien, il n'est jamais satisfait. Le chrétien n'a jamais assez donné. Le chrétien n'est jamais content de soi. C'est vrai. Hein? Le chrétien est toujours content de Dieu, mais il n'est jamais content de soi. Parce qu'il trouve qu'il n'a jamais fait tout ce qu'il devait faire. J'aurais certainement pu en faire encore un peu plus. Oh, c'est dommage, si j'avais su, tiens, la prochaine fois. Mais oui. Donnez à celui qui vous demande et ne rejetez point celui qui veut emprunter de vous, etc., etc. Aimez vos ennemis. Oh, tiens. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Aimez vos ennemis. Nous ne sommes les ennemis de personne, nous. Nous avons des ennemis. Ah, ça, c'est sûr. Non. On en a des ennemis. Les ennemis de Jésus-Christ. Les ennemis de l'Église, il y en a tant qu'on veut. Le monde en est plein. Mais nous ne sommes les ennemis de personne. Non, non. Non, non. Et nous prions pour nos ennemis et nous aimons nos ennemis. Nous les aimons d'un amour qui n'est pas l'amour de sympathie naturelle, etc. Attention, hein, ça, peut-être, c'est pas ce que Jésus-Christ nous demande. Il ne demande pas de leur faire des grands sourires, de dire, monsieur, c'est bien, continuer. Certainement pas. Si c'est l'amour intérieur, c'est l'amour surnaturel, l'amour de charité. Ne pas vouloir le mal de ses ennemis, vouloir leur conversion. Qu'ils se repentent, qu'ils fassent pénitence, qu'ils sauvent leur âme. Eh oui, bien sûr. Ça n'interdit pas de se battre contre ses ennemis, attention. Hein. Bon, s'ils se battent, ben, je me défends peut-être, ça, c'est possible. Mais je ne leur veux pas de mal. Je ne leur veux pas de mal. Et je ne leur fais que le mal qui est vraiment strictement nécessaire pour les amener justement à, eh bien, peut-être à se repentir. Ou pour les empêcher de nuire. Oui. Et pas plus. Je ne leur veux pas de mal. Je ne leur veux que du bien. L'amour de bienveillance. Oui. Voilà. Même à ceux qui sont les pires ennemis. Vous voyez, toute cette loi des conseils, là, c'est là. Jésus-Christ nous invite à aller beaucoup plus loin. Hein. Ça va très, très loin. Là, vraiment, ça nous prend hein, au fin fond des fibres de notre cœur et de notre âme. Hein. Et ça, c'est pas naturel, c'est vrai, ça. Et tout cela n'était pas prescrit par la loi ancienne. Oui. C'était pas imposé par la loi ancienne, cela. Vous voyez, donc, cette première partie, là, où il y a tous ces préceptes, donc vis-à-vis des actes intérieurs, les occasions du péché, même quelques conseils. Ensuite, c'est au chapitre 6. Notre Seigneur nous enseigne à diriger notre intention, voyez, dans nos actes. Voyez, c'est, voilà, il essaie un petit peu de régler nos actes intérieurs, de nous pousser un petit peu plus loin. Et maintenant, tout cela, c'est bien, mais l'intention dans laquelle vous faites ça. Pourquoi vous faites cela, hein? Il nous apprend ensuite à diriger notre intention. Et il nous recommande de ne rechercher dans le bien que nous faisons ni la gloire humaine, ni les richesses temporelles, ce qui serait thésaurisé sur la terre. Dans tout ce que nous faisons, eh bien, ne pas rechercher la gloire des hommes, ni les biens terrestres, tout cela, ça n'a aucune importance. Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardés. Autrement, vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous. L'aumône a beaucoup de bruit dans la corbeille de la quête. Là. Regardez, j'ai mes grosses pièces. Moi. Faites-le discrètement, ça vaut beaucoup mieux. Mettez un billet, ça fait moins de bruit. Excusez-moi. Eh oui, faire ça discrètement. Il est facile de faire l'aumône, vous savez. Il y a tout un tact de vertu que nous ferons très facilement tant que nous serons certains d'être vus. L'amour propre. Si on me voit, d'accord, ça je veux bien faire une aumône, faire un geste, ceci, cela. Donc, et si personne ne me voit, c'est pas intéressant. Pas intéressant. C'est vrai. Eh oui, mais le chrétien, lui, il sait que quelqu'un le voit, lui, ça lui suffit. Il sait que Dieu le voit. Pour qui je vis, pour qui j'agis, pour Dieu, pas pour les autres. Et je vis sous le regard de Dieu. Et tout ce que je fais, eh bien, c'est sous le regard de Dieu, et pas sous le regard des hommes. Si les hommes me voient, bon, c'est leur affaire. Et c'est pas pour être vu des hommes que je le fais. Oui. Lorsque vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne sache point ce que fait votre main droite, oui, etc. Et c'est là, bien qu'il nous donne cette loi de la prière, oui, cette très belle prière du Notre Père. Oui. Donc, il nous apprend justement à prier, mais dans le silence, dans le secret de notre cœur. Oui. Sans faire des grandes démonstrations, ça c'est toute la prière. Il y a la prière juive, est très très extérieure, très très formelle. Vous voyez, ça fait du bruit, des gestes et des lamentations et ça pleure, etc. Non, c'est pas ça qui compte. Le bon Dieu, ça l'intéresse pas tout cela. Ce qu'il voit, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Alors, donc, lorsque vous prierez, eh bien, priez dans le secret. Et puis dites tout simplement Notre Père qui êtes aux cieux. Fais pas des grandes prières très longues, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ce n'est pas la multiplication des formules qui plaît à Dieu, non. C'est la vérité, ouais. La vérité de ce que disent nos lèvres, la vérité de ce que dit notre cœur. Notre Père qui êtes aux cieux, etc. Voilà. Vous voyez cette prière, la Saint Thomas d'Aquin, je vous recommande d'ailleurs, le commentaire de Saint Thomas d'Aquin du Pater. Ouais. Je ne sais pas si ça se vend quelque part, mais enfin j'espère. Ouais. C'est un très beau commentaire du Notre Père de Saint Thomas d'Aquin. Le Notre Père qui contient tout ce que nous pouvons, tout ce que nous devons demander. Le Notre Père contient, dit saint Thomas d'Aquin, tout ce que nous devons demander et tout ce que nous devons désirer. Nous ne devons pas désirer autre chose que ce qui est contenu dans le Notre Père, car il n'est pas permis de demander ce qu'il n'est pas permis de désirer. Mais, ça va de soi. Eh bien voilà, nous avons le droit de demander ce qui est dans notre Père, les sept demandes de notre Père. Et nous n'avons pas le droit de désirer autre chose. Mais tout y est. Tout y est. Vous savez. On pourrait faire une fois ou l'autre une étude de notre Père, c'est une prière magnifique. Tout y est. C'est vrai. Lisez ce petit commentaire de saint Thomas d'Aquin. C'est très, très beau. Hein. Et toutes les prières que nous faisons à Dieu, toutes les prières que nous faisons à Dieu, doivent pouvoir s'insérer dans le Notre Père. Regardez un peu quand vous faites une prière, quand vous demandez quelque chose à Dieu, où est-ce que je peux le mettre dans notre Père? Est-ce que ça rentre? Si ça ne rentre pas, eh bien, il ne faut pas que je le demande, c'est tout. Voilà. Pour régler notre prière, eh bien, voilà, notre Père est là. Voilà, donc la prière, et puis ensuite, après cette loi de la prière, donc notre Seigneur nous continue justement, et ça fait suite à cette prière du Notre Père, il nous invite justement à abandonner toutes ces fausses et vaines sollicitudes. Ne vous cassez pas la tête. Puisque vous avez un Père qui est dans les cieux, eh bien, faites-lui confiance, c'est tout. Regardez les oiseaux, regardez les lys dans les champs. Bon. Est-ce que votre Père qui est dans les cieux ne s'occupe pas d'eux? Bon, alors pourquoi vous mettre en souci? Votre Père sait très bien ce dont vous avez besoin. Il le sait très bien. Demandez-lui gentiment, simplement, et puis faites-lui confiance, il vous donnera quand vous en aurez besoin. Quand vous en aurez besoin. Et si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, il ne vous donnera pas. Donc s'il ne vous donne pas, si vous n'en avez pas besoin. Donc ne vous respectez pas. Et tout. Il dit merci mon Dieu. Mais c'est sûr. On demande des tas de choses au bon Dieu. Bon, ben ma foi, on peut se tromper, qu'est-ce que vous voulez faire, ça, c'est évident, ça. C'est pas un défaut, c'est pas un péché de se tromper. Bon, mais si Dieu ne répond pas, n'exauce pas, c'est que nous n'en avions pas besoin. C'est aussi simple que ça. Ne pas se mettre en souci, Dieu est notre Père. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Bon, mais s'il ne fait pas telle ou telle chose, c'est que telle ou telle chose n'est pas utile ou n'est pas nécessaire. Donc, c'est tout, il ne faut pas se casser la tête. Voilà. Il sait beaucoup mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc, ne pas se mettre en souci de tout cela. Et puis enfin, le dernier chapitre, troisième chapitre, chapitre 7e de saint Matthieu, notre Seigneur règle, là c'est la fin donc de la loi nouvelle, vous voyez, dans ces deux premiers chapitres, il a essayé de régler nos mouvements intérieurs par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport à nous-mêmes, notre volonté, notre intention. Maintenant c'est par rapport au prochain, voilà, par rapport au prochain, dans nos comportements vis-à-vis du prochain. Qu'est-ce qu'il nous commande? Eh bien, il nous défend par exemple de juger témérairement, ou avec injustice, ou avec présomption. Voilà, tous ces jugements. Voyez, en gros, c'est ne jugez pas. Ne jugez pas. Vous savez, dites-vous bien que quand nous jugeons quelqu'un, nos jugements sont toujours téméraires. Toujours, toujours, toujours. Mais parce que nous ne savons pas ce qui se passe au fond de lui. Lorsque je me dis, un tel, c'est un bandit, c'est un pauvre type, c'est un minable, il est méchant, il est ceci. Il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être fait des fautes, il a peut-être fait du mal, c'est possible, ça je ne dis pas. Extérieurement, bien sûr, on constate bien des choses. Mais quand nous portons un jugement intérieur sur ce qu'il est véritablement, qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Dites. Nous-mêmes, nous avons déjà bien du mal à nous connaître, hein, à savoir ce que nous sommes véritablement, ce que nous valons véritablement au fond de nous-mêmes. On a du mal parfois à faire exactement le point. Alors comment pouvons-nous savoir ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un? Dieu seul le sait. Alors, ma foi, ne jugeons pas. Oui, ne jugeons pas. On peut porter des jugements sur des actes, des faits, des attitudes, des paroles, des choses extérieures, d'accord? Telle parole est fausse, telle parole est... Bon, d'accord, ça c'est vrai. Telle attitude est mauvaise. Mais dire un tel et ceci... Ah, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux avoir des soupçons, je peux avoir des présomptions, mais des certitudes, jamais, jamais. Alors, attention, ne jugeons pas. Ne jugez point, car vous serez jugés selon que vous aurez jugé les autres. Attention, hein. Ça, c'est comme le Notre Père, hein. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez un petit peu la règle du pardon que nous demandons pour nous-mêmes. Je demande à Dieu, fais attention quand on dit ça au bon Dieu, hein. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Bon, j'espère sans doute être bien pardonné du bon Dieu. Il vaut mieux qu'il me pardonne beaucoup, souvent, longtemps, et sans cela, c'est... Alors, et moi, vis-à-vis des autres, ouais. Eh oui, ben, si je veux que le bon Dieu me pardonne, eh bien, commençons par que... Il faut que je commence à pardonner aux autres. Les autres ont des torts, c'est vrai, mais et moi, est-ce que je ne peux pas leur pardonner quand même? Aussi, au moins aussi souvent que le bon Dieu me pardonne moi-même. Ouais. Donc ne jugez point, etc. Et tous ces jugements que nous portons sur les autres. Ouais. Mais il dit attention quand même, ouais, une petite phrase, un petit peu une mise en garde. Il dit attention, il ne faut pas qu'on non plus aller trop loin. Hein. Saint Thomas le précise bien. Mais il ne veut pas que l'on pêche par faiblesse non plus à l'égard des autres, en les admettant à la participation des choses saintes quand ils en sont indignes. Donc ne pas juger les autres, mais attention, prudence, hein, gardez-vous bien de donner les choses saintes aux chiens. Et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent sous leurs pieds et que, se tournant contre vous, ils ne vous déchirent. Et il y a quand même des êtres indignes, des êtres qui se conduisent d'une façon indigne, soit au plan religieux, soit au plan moral. Bon, attention, on n'est pas obligé de leur faire des cadeaux, cela. Hein. Attention, hein. On ne les juge pas, on ne les condamne pas, mais pas de cadeau. Voilà. Restez chez vous. Bon, il ne s'agit pas non plus de profaner les choses saintes. Hein. Et là, il y aurait bien des choses à dire, malheureusement, sur l'attitude de notre Église aujourd'hui. Pas profaner les choses saintes. Hein. Le sacrifice de la croix est la chose la plus sainte que nous ayons. Ça ne se profane pas. On ne fait pas n'importe quoi avec lui. Et on n'admet pas n'importe qui à la communion, etc. Ouais. Toutes ces intercommunions, œcuménistes et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est ça? C'est donner des perles aux pourceaux. Ouais. Et malheureusement, les perles que nous leur donnons, c'est le sacrifice de la croix. Je ne sais pas si ça plaît beaucoup à Jésus-Christ. Je crois même que ça ne lui plaît pas du tout. Bon. Et puis enfin, toute la finale du chapitre 7, eh bien, ce sont des conseils, un petit peu pour la mise en pratique. Hein. Pour comment faire un peu pour pratiquer toute cette loi nouvelle qui est difficile, c'est vrai, ça, c'est, il ne faut pas se voiler les yeux. Eh bien, comment faire? Eh bien, il nous conseille d'implorer le secours de la grâce. Il faut implorer le secours de la grâce. Oui. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Oui, il faut demander à Dieu. Vous avez du mal, nous avons du mal à pratiquer cette loi évangélique, bien sûr, elle est difficile. Eh bien, demandez à Dieu sa grâce. Il faut la lui demander tous les jours et tout au long du jour. Oui. Et le bon Dieu nous la donnera, puisqu'il veut que nous pratiquions cette loi. Si vraiment nous voulons la pratiquer nous aussi, bien, demandons sa grâce. Il nous la donnera et nous parviendrons petit à petit à pratiquer cette loi évangélique. Oui. Oui, quelques conseils aussi, attention, méfiez-vous. La porte est étroite. Oui, donc il nous encourage un petit peu à la générosité, à la prudence. Hein. Entrez par la porte étroite. La porte de la vie est petite. La voie qui y mène est étroite, il y en a peu qui la trouvent. Peu qui la trouvent. Hein. La porte de la perdition, elle est large. Et il est plus facile justement de suivre la loi du monde. Hein. La voie large est facile, il n'y a qu'à se laisser couler. Ça. Pouf, c'est qu'à faire comme tout le monde. Alors là, pas de problème, on est sûr de finir dans la marmite. Pas de problème. Mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Et la voie est étroite. Et oui. Et il y en a peu qui la suivent, c'est vrai ça. Et c'est une souffrance pour nous peut-être d'être peu nombreux comme ça, d'être isolés, d'être montrés du doigt. Oh, regardez celui-là, il n'a pas la télévision, je ne sais pas quoi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il est coincé, il n'est pas rigolo, il n'est pas... Ben oui, ben ma foi, vive les coincés du bon Dieu, si vous voulez. Qu'est-ce qui compte? Bien sûr, c'est pas drôle, c'est pénible, c'est douloureux. Il y a des jours où ça nous impose des séparations, des renoncements, parfois des vrais déchirements, même dans les familles. Ça, nous le savons bien, hélas. Mais qu'est-ce qui compte? La béatitude ou pas? La béatitude, nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour le royaume des cieux. Nous ne sommes pas faits pour le royaume du monde. Et gardez-vous des faux prophètes. Oui, c'est tous ces conseils qu'ils nous donnent, conseils très pratiques. Méfiez-vous, attention. Il y en a qui viendront vous raconter des boniments. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts de peau de brebis et qui au-devant sont des loups ravisseurs. Et vous les connaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Mais regardez les fruits, par exemple, de certains de nos confrères dans le sacerdoce ou dans l'épiscopat. Hein. Gardez leurs fruits. Regardez ce sondage qui a été fait il y a peu de temps hein, dans notre pauvre vallée, notre beau vallée. Hein, voilà ce qu'ils en ont fait. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Donc, se méfier des faux prophètes. Donc, prendre toutes les précautions nécessaires hein, pour nous garantir justement contre la séduction. Hein, et c'est séduisant tout cela, c'est vrai. Voilà un petit peu cette loi nouvelle. Voyez, on pourrait dire encore beaucoup de choses, bien sûr. Hein, c'est immense. Là, Et là, vous avez tout l'évangile en condensé, dans ces trois chapitres de saint Matthieu. Vous avez tout l'évangile, vous avez tout ce que Dieu a voulu nous dire par son Fils est là. Et dans toutes ces épîtres, mais...